Time Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nelman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Time Sport sur Beurre FM. Votre émission sport quotidienne 20h, 21h pour ceux qui sont à table. Oui, parce qu'il est 20h. Bah, bon appétit. Voilà, à tous. Nous, on mangera après l'émission. Avec moi, mes consultants du soir, JN qui est avec nous. Comment ça va, JN ?
Eh ben, ça va très bien, et toi ?
Bah, écoute, ça va impeccable, impeccable. Mourad est là également ce soir.
Salut Claude, comment vas-tu ?
Écoute, très bien.
Il y a ceux qui passent à table, il y a ceux qui sont devant les matchs de Ligue des Champions.
Exactement.
Il y a le groupe du Paris Saint-Germain aussi, l'autre match avec Manchester City que j'ai laissé à 1-0 tout à l'heure.
D'accord.
Et il y a aussi un très beau match qui se joue à Istanbul actuellement entre le Beşiktaş et le Sporting Lisbonne. Dans une ambiance incroyable.
Feu.
Incroyable.
C'est une des plus belles ambiances d'Europe. Hein.
Incroyable. Franchement, avec toute cette année crise sanitaire, avec l'interdiction justement des spectateurs dans les stades, etc. Voir cette ambiance-là, franchement, c'était incroyable.
Au menu de cette émission de Thème Sport, on reviendra bien sûr sur le match de ce soir entre le Paris Saint-Germain et Leipzig, donc le PSG qui retrouve le parc et la magie de la Ligue des Champions. Hein, on les trouve plutôt efficaces en championnat, mais voilà, qui lorsque la Ligue des Champions, la musique retentit, hein, ça se transforme.
Ça change tout.
Il y a les étoiles au parc.
Ben oui, effectivement. Non, je suis d'accord avec toi parce que moi je tiens à dissocier justement le parcours du Paris Saint-Germain en championnat et celui en Ligue des Champions. On entend cette petite musique où le PSG en championnat, on va dire que il conclut sans séduire, alors qu'en Ligue des Champions ils ont ce match référence.
On y reviendra avec bien sûr.
On pourra développer un peu.
Reviendra.
Justement, j'attendais que tu me lances, Claude.
On y reviendra, moi. Je vois que
le jeu de regard est important ce soir.
Avec notamment le retour invité d'honneur ce soir d'un certain Ronaldinho, et ça ne plaît pas trop du côté de la Catalogne. Et puis on parlera bien sûr de cette rencontre entre Liverpool et l'Atlético de Madrid, ce duel entre Jürgen Klopp et Diego Simeone. Et puis une question peut-être de jour pour Claude Puel, l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne pour qui c'est extrêmement compliqué. On pense voilà, aux nombreux supporters français. Tout de suite, le JT Sport avec Jason.
Time Sport, le sujet des sociaux. Le sujet des sociaux. Le sujet des
sociaux. Eh bien, il n'y a pas de JT Sport car il est à table. Voilà. Il est à table, en tout cas, nous on recevra Bruno Derrien, l'ancien arbitre français qui sera notre invité. Ça sera en deuxième partie d'émission. Allez, on enchaîne.
The Special One, The Special One.
La Ligue des Champions, eh oui, Mourad Jihen, le retour du Paris Saint-Germain dans cette compétition où on voit peut-être le vrai visage parisien.
Oui, ben je sais pas si Jihen voulait rebondir, je vais peut-être lui laisser la parole, mais moi très rapidement, je voulais dire qu'il y a un match référence à sa Manchester City, il y a une entrée en lice en Ligue des Champions assez timide en Belgique lors du premier match où on avait eu le bonheur de voir le premier alignement de la MNM, c'est ça ? Messi, Neymar, Mbappé. Voilà, exactement, ça me fait penser
à exactement.
Et c'est un boys band. Donc où on était resté sur notre faim, mais après face à Manchester City, je pense que le facteur déclencheur c'est vraiment la motivation. En face il y avait Manchester City, le Manchester City de Guardiola qui plus est, et on a vu justement c'est symbolisé par ce but de Messi avec Mbappé à la passe décisive. Donc c'était incroyable. J'espère voir le Paris Saint-Germain au même niveau en termes de motivation ce soir. On voit qu'en Ligue 1, comme j'ai souligné un peu plus tôt, ça conclut sans séduire, mais là n'est pas le but. En Ligue des Champions, le but est d'aller au bout. Et je pense que voilà, tous les projecteurs sont sous Pochettino. Et c'est ce pourquoi il a été recruté, justement, cette saison. C'est pour aller le plus loin possible, si ce n'est en finale de Ligue des Champions. Bon, et ouais, ça passe par Leipzig.
En ce début d'émission, tu nous annonçais un score de 2-0, hein, c'est ça, pour City
Moi, je les avais laissés à 1-0.
1-0, ouais. Et bien il y a 3-0. Voilà, pour City, des
buts. Est-ce que tu peux nous rappeler les buteurs?
João Cancelo, 30e, Mahrez, 43e et Walker, 53e. City fait le job.
Ah, bah, tu m'annonces Mahrez, donc du coup, là, je vais passer une meilleure soirée que je ne passe actuellement, donc ça fait plaisir.
Jihen, sur ce retour du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions face aux Allemands.
Alors oui, je vais reprendre un petit peu ce qui a été dit. Hein. C'est vrai que on a un PSG à deux niveaux. On a le PSG en Ligue 1 qui n'est pas très percutant, et on a le PSG en Ligue des Champions. Maintenant, par rapport à la composition de l'équipe ce soir, je ne sais pas ce que ça va donner, parce que il me semble que Neymar est blessé, que Icardi est pas très bien en ce moment. Donc, du coup, on peut se poser un petit peu des questions sur cette composition d'équipe et sur l'état de forme du PSG en ce moment. Mais c'est vrai qu'on attend beaucoup du PSG, tout simplement parce qu'ils ont annoncé eux-mêmes que leur objectif c'était de gagner cette Ligue des Champions. Et c'est un petit peu pour ça que Messi est arrivé aussi cette année. Hein. C'était l'objectif de ce recrutement, d'aller au bout de cette Ligue des Champions et d'arrêter de se ramasser en demi ou en finale. Donc voilà, moi j'attends de voir ce qui va se passer.
Mais Jen, on rebondit, la composition du Paris Saint-Germain vient de tomber, donc ça sera un 4-3-3 avec Navas dans les buts, préféré à Donnarumma, une défense à 4 avec Hakimi à droite, Marquinhos, Kimpembe dans l'axe, Nuno Mendes sur la gauche, un milieu à 3 avec Gueye dans l'axe, c'est plutôt Verratti, Ander Herrera à ses côtés, et puis devant Kylian Mbappé en pointe, Messi qui sera sur le côté droit, et c'est Draxler qui remplace numériquement Neymar, et bien sûr pas de Icardi qui, malheureusement, a quelques soucis personnels.
Moi je vois plus un 4-4 de losange avec Draxler justement en 10. De par son manque de vitesse, je vois mal un Draxler évoluer sur le côté gauche. Donc on pourra crier à l'innovation de Pochettino de mettre en place un 4-4-2, sachant que s'il joue en 4-4-2 ce soir, c'est justement parce que Neymar est absent, sinon ce serait un 4-3-3. Donc une fois qu'on a dit ça, on sait dans quel système ils vont jouer. Ensuite, tu me parlais justement des absences. Je connaissais les ruptures de ligaments croisés, éventuellement les ruptures d'anévrisme, mais les ruptures amoureuses, je connaissais pas. Donc voir Icardi absent pour des raisons de rupture,
c'est que ça l'a marqué,
et des problèmes de couple. Non, mais je pense que tout le monde en a. Je pense que si tu évalues les problèmes de couple qu'ont les joueurs, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions, et les voir indisponibles, c'est assez surprenant quand même. Donc Pochettino, encore une fois, même si on sait que son objectif, c'est le résultat, qu'il a mis le jeu de côté, et qu'il est qu'il est vraiment dans la quête du résultat pour aller justement au bout de cette compétition. La gestion du cas Icardi, moi, me pose un peu problème. D'ailleurs, justement, tu parlais de Ronaldinho. Moi, je me souviens de Luis Fernandez, qui pour moi est un des entraîneurs qui a eu le plus de courage à l'époque, avoir mis Ronaldinho à juste titre, Ronaldinho sur le banc. Même si je suis très fan de Ronaldinho, on voit que Pochettino et ses prédécesseurs n'ont jamais eu le courage de mettre un Neymar sur le banc quand il y a eu des problèmes extrasportifs. De dire les choses quand on a des problèmes tels que ça, au lieu de le mettre dans le groupe, comme on peut le voir avec les problèmes que rencontre Icardi. Donc il y a toujours ce deux poids deux mesures et cette peur du star côté management, que ce soit avec Pochettino ou ses prédécesseurs. Donc ça, je tenais à le souligner, et un petit clin d'œil à Luis Fernandez.
J'ai un problème de gestion, comme le dit peut-être Mourad. Peut-être.
Alors je sais pas si on peut parler de problème de gestion, mais est-ce que c'est intéressant pour un entraîneur de mettre sur le terrain quelqu'un qui ne sera pas à 100% et qui aura la tête ailleurs? Je sais pas, faut pas oublier que les joueurs de foot, c'est pas des héros Marvel, on a tous des problèmes. Alors certes, il faut être capable de faire la part des choses entre le professionnel et le personnel, mais si le personnel et le professionnel sont imbriqués, on connaît pas les causes justement de cette rupture, s'il y a rupture ou pas du ligament gauche du cœur, c'est ça?
Je pense, j'ai l'impression. Ouais.
Vous inventez des blessures, les amis.
Il y a un potentiel triple pontage coronaire amoureux.
Donc après, moi, on peut pas juger parce qu'on connaît pas les dessous de cette histoire, mais si ce joueur en est à ne pas pouvoir être apte à jouer, je pense qu'il est tout aussi intelligent de ne pas le mettre. Mais par contre, derrière, il faut avoir le discours qui va avec, en disant que là, c'est exceptionnel, que normalement, un joueur professionnel doit être capable de faire la part des choses entre les deux, et que sanction il y aura, autre que celle de ne pas le mettre sur la feuille de match, et que c'est quelqu'un en qui on ne peut plus avoir confiance.
Ouais, non, mais je rebondis aussi sur ce que dit Diane. Effectivement, toute proportion gardée, lorsqu'on est l'issue peut-être du milieu ouvrier, j'ai du mal à voir cette justification de problèmes amoureux, de s'absenter dans les 3-8, etc. Je pense qu'à ce niveau de salaire, on doit justement, c'est à l'impératif, faire la part des choses, et c'est à Pochettino aussi de l'insuffler et de taper du poing sur la table et de montrer que derrière ce Paris Saint-Germain, il y a une institution et un entraîneur qui va
lui
reprocher
d'être trop amoureux, par exemple.
Non, mais après, c'est ses problèmes perso. Mais je pense que
ça rejoint. Excuse-moi.
Ouais, non, je t'en prie. Ça, c'est des problèmes perso. Après, il a un objectif. Pochettino et il doit faire avec.
Ça, ça rejoint un petit peu ce dont on avait parlé il y a quelques semaines de cela avec la préparation mentale et comment l'extérieur peut affecter les joueurs. Et je pense que ça aussi, c'est des choses qu'on doit prendre en compte parce que malheureusement, quand on est joueur de foot, c'est vrai que très souvent, le perso et le pro sont imbriqués l'un dans l'autre. Et tout ça, c'est de la gestion. Pour moi, c'est de la gestion mentale. Et j'espère qu'il y a un staff derrière pour réussir à lui faire retrouver les terrains rapidement.
On va revenir à ce match de ce soir entre le PSG et les Allemands de Leipzig. La composition de l'équipe de Leipzig, donc un 4-4-2 avec... parce que là j'hésite parce qu'il y a un quatrième but de City à l'instant. 4-0 pour City à l'extérieur en Belgique. On revient mi-temps. Tout de suite. En tout cas, 4-4-2 avec Goulachi dans les buts, Klosterman à droite, Orban et Simakan, l'ancien Strasbourgeois. Dans l'axe, Angelinho sur le côté gauche et puis un milieu de terrain à 4 de droite à gauche avec Aïdara, Adams, Leimer et Nordin Mukiele et puis une attaque à deux têtes avec André Silva le portugais et Christopher Nkunku formé au Paris Saint-Germain qui brille.
Oui, qui doit être connu comme le loup blanc côté Paris Saint-Germain puisque c'est un ex-petit rookie du Paris Saint-Germain. À noter justement l'absence côté Leipzig de Olmo, l'international espagnol qui a fait forte impression que ce soit à l'Euro ou lors de la Ligue des Nations, un joueur que, même s'il était blessé, je pense, le deuxième match, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, qui a un parcours atypique. Mais après, connaissant le parcours de Leipzig, ils ont totalement, enfin, que ce soit avec le nouvel entraîneur depuis le départ de Nagelsmann, ça a plus la même ferveur, ça a plus le même dynamisme. Ils sont sur un parcours en dents de scie en championnat, ils voyagent très très mal, ils encaissent beaucoup de buts. En Ligue des Champions, je crois qu'ils sont à 0 point. Tout est réuni aujourd'hui pour que le Paris Saint-Germain passe une belle soirée. Il y a même Ronaldinho qui donne le coup d'envoi. Ça, je pense que tu l'annonceras un peu plus tard. On pourra échanger sur le statut de Ronaldinho au Paris Saint-Germain. Mais tout est réuni pour passer une bonne soirée ce soir du côté du Parc des Princes.
C'est pas le meilleur qui inscrit le quatrième but. Ça fait 4-0 pour City. À Bruges, qui avait été plutôt impressionnant, qui avait surpris le Paris Saint-Germain lors de la première journée. On peut dire que les Belges rentrent dans leur rang, JN.
Ouais, je ne sais pas si on peut dire qu'ils rentrent dans leur rang, mais par rapport à la prestation qu'ils sont en train de faire, c'est plus leur niveau, en tout cas le niveau qu'on attendait d'eux. Donc après, est-ce que c'est Bruges qui avait brillé ou le PSG qui n'était pas en forme? Je vais opter pour l'option le PSG qui n'était pas là.
Oui, c'était une entrée en matière pour le Paris Saint-Germain. Après, Bruges a été capable de réaliser de petits exploits. On se souvient de leur performance à Bernabeu face au Real Madrid, je ne sais plus si c'était la saison dernière ou il y a deux saisons. Après, il y a peut-être le complexe d'infériorité quand c'est Kevin De Bruyne, la star du pays, qui revient justement pour jouer un match de Ligue des Champions. Peut-être que les joueurs sont amusés à le regarder. Donc je sais pas. Non, mais franchement, là, pour avoir regardé la première mi-temps, City a dominé le match de la tête et des épaules, que ce soit au niveau du jeu, que ce soit au niveau de l'intensité, que ce soit au niveau tactique. Il y avait des doublements incroyables du côté de Kyle Walker qui prenait son couloir. Il y avait un Grealish qui était pleinement en forme, qui avait tout ce soir, intelligence tactique, technique, profondeur. On avait aussi Phil Foden qui évolue en faux neuf, qui décrochait beaucoup et qui permettait aux ailiers de prendre leur couloir et éventuellement de rentrer pour pouvoir marquer. On a eu un milieu de terrain aussi avec Rodri, je sais plus s'il a marqué justement, qui était ultra dominateur au milieu de terrain. Et un gardien de but, voilà, la première relance, qui joue très bien au pied, mieux que certains joueurs de Ligue 1. Donc non, franchement, City c'est du très très haut niveau, ça tourne, c'est huilé. Guardiola était sur son banc, il ne bougeait pas et on était à 4-0. Je pense qu'ils sont venus avec beaucoup de certitude et on voit, je sais même pas si c'est la mi-temps et on témoigne le score justement. On est en seconde période, on témoigne le score.
Il reste une vingtaine de minutes et City mène tranquillement 4-0 en Belgique. Oui.
Après, il y a Ketteler qui est le capitaine, qui est aussi pas mal. Il y avait des bribes d'action. Il y a Lang aussi qui avait remplacé Neymar face au Paris Saint-Germain et qui aujourd'hui se mute un peu en Neymar grippé face à Manchester City. Mais voilà, alors, je pense que comme l'a dit JN, tout revient à la normale. C'est comme
après
les championnats post-trêve internationale, tout se rééquilibre. Et c'est pareil pour la Ligue des Champions. Le premier match, on se jauge et ensuite la réalité reprend son cours.
Jen, merci Mourad.
Ouais, il y a aussi ce que tu viens de dire Mourad, c'est que Manchester c'est rodé, c'est huilé, c'est quelque chose qui est en place et qui fonctionne, alors que le PSG, quand ils ont joué ce premier match, c'était encore justement en rodage avec pas mal de choses sur lesquelles il fallait travailler et sur le terrain et dans les vestiaires. Donc je crois que cette performance du PSG, elle était à l'image un petit peu de tout ce qui se passait en sous-marin au niveau du PSG.
Le PSG devrait s'imposer sans problème ce soir face à Leipzig. On sait que la saison dernière, ça a été une victoire plutôt difficile, mais on a peut-être plus le même visage des Allemands cette saison, Mourad.
Il y avait Nagelsmann qui est aujourd'hui au Bayern, je pense qui est aussi un des tacticiens les plus avancés de sa génération. Là, aujourd'hui, il n'est plus là. Tout est réuni, même si les Sud-Américains manquent à l'appel et on assiste encore à une énième blessure de Neymar. On est sur un 4-4-2, voire un 4-3-3 hyper performant avec Messi et Mbappé. Donc, moi, je vois aucun souci côté Paris Saint-Germain pour s'imposer très lourdement ce soir face à Leipzig.
Merci, Jen. Petite pause. On se retrouve juste après avec l'ancien arbitre français Bruno Derrien. À tout de suite.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
De retour pour la seconde partie de Time Sport sur Beurre FM. 20h, 21h avec un petit duo ce soir, sympathique, JN, Mourad. Ça va les amis ?
Ça va super.
Ouais.
Ça va super. En soirée Ligue des Champions, tout va bien ?
C'est ça.
On attend 20h45, 21h pour écouter cette petite musique.
À quelques minutes de cette rencontre entre le PSG et Leipzig. Rencontre déjà décisive ou pas ? Pour la suite de la compétition.
Est-ce qu'on peut... Décisive pour qui ? Le Paris Saint-Germain est toujours sorti des phases de poule de manière assez facile. Donc, côté Paris Saint-Germain, il n'y a pas de... Il n'y a rien de décisif. Côté Leipzig, peut-être que c'est le moment de sortir la tête de l'eau, parce que 0 point en 2 matchs, ça fait un peu beaucoup.
Ça s'annonce quand même compliqué pour les Allemands ce soir. Et en même temps, bien sûr, City ne fait qu'une bouchée de Bruges sur le score de 4-0. Allez, tout de suite, notre invité Bruno Derrien.
Time Sport, The Special One. The Special One.
Ancien arbitre de football français, plus de 350 matchs arbitrés au niveau professionnel. Bruno Derrien est avec nous. Bonsoir Bruno.
Bonsoir à tous.
En tout cas, c'est un plaisir de vous avoir sur notre antenne de Thème Sport sur Beurre FM.
C'est un plaisir partagé.
Alors bonsoir. Ma première question, comment gérer justement la pré-carrière de l'arbitrage ? C'est vrai qu'on parle souvent des footballeurs, mais les arbitres.
En ce qui me concerne, moi j'ai mis un terme à ma carrière en 2008. Le temps passe, ça fait déjà 13 ans, et je n'ai aucune fonction dans l'arbitrage français. Donc je suis consultant. Donc je m'exprime. Quand on me pose des questions, je réponds comme ce soir. Et alors ça, c'était dans le foot. Mais j'ai une activité professionnelle où je travaille au groupe La Poste, où je suis en charge des relations publiques.
Très bien. Mourad, une question peut-être pour Bruno ?
Non, et oui, effectivement, moi j'avais une question. On l'avait vu à l'époque qu'il avait écrit un livre justement où il plébiscitait la VAR, justement, où il appelait, je crois que c'était SOS Arbitre, SOS Vidéo, où il appelait justement à l'intervention de la VAR. Aujourd'hui, j'ai fait ma petite analyse, parce que j'ai fait mes devoirs. On voit qu'il est un peu réfractaire par rapport à l'utilisation de cette dernière, par rapport au rôle que ça peut jouer auprès des arbitres centraux. Qu'est-ce qui a fait que, depuis 2010 à maintenant, il est changé, on va dire, potentiellement changé d'avis sur l'utilisation de la VAR, et même sur la technologie en elle-même?
D'abord, il y a des imbéciles qui ne changent pas d'avis.
Vous avez tout à fait raison. Et une fois qu'on a dit ça, on attend les arguments.
Bien sûr, mais ils vont arriver, les craintes. Alors, on fait beaucoup de procès de la VAR, c'est peut-être le son d'utilisation qu'on devrait faire. Alors, c'est vrai que la VAR peut éviter les grosses erreurs. D'abord, elle a été instituée pour modifier les erreurs manifestes. Dans quelques cas, ont été bien identifiés.
La goal line technologie, entre autres.
Bon, la goal line, ça part.
D'accord.
La goal line a été instituée il y a plusieurs années. C'est uniquement une technique, enfin, une machine qui dit que le ballon a franchi la ligne.
D'accord.
Donc, c'est C'est, ou c'est blanc ou c'est noir. Mais c'est jamais gris.
Tout à fait.
Donc, et c'est maintenant qui prend la décision de valider un but. Alors, ça m'aurait bien aidé lors d'un France Marseille en Coupe de la Ligue en 99 où j'avais éliminé Marseille, qui avait au but de Récroix qui jouait à l'OM et j'ai franchi la ligne. Et ni mon assistant ni moi ne l'avions vu. Voilà. Donc maintenant, il n'y a plus de polémique qui concerne la ligne de but. Et c'est très bien. Mais la VAR, bon, il est vrai que des fois, ça c'est arrivé que des décisions manifestement erronées soient corrigées. Mais quand c'est. Parce que les situations de des fois, c'est pas blanc ou noir, des fois gris.
Tout
donc,
à fait.
L'interprétation d'un arbitre face à une image dont on n'a fait que déplacer le problème. Alors, le premier grief que moi je formule à l'égard de la VAR, c'est que j'ai le sentiment que les arbitres sont totalement déresponsabilisés aujourd'hui. Et ça, ça me pose un problème, et notamment les arbitres assistants qui n'avaient pratiquement plus leur drapeau, ils arrivent à attendre que l'action aille à son terme, et puis ils lèvent ou ils ne lèvent pas, et puis ils se disent que si c'est bon, c'est pas probable que l'image viendra à leur secours. Or, beaucoup d'images relèvent d'interprétation. Et j'ai comme le sentiment, après 3 ans de VAR, je crois que ça fait 3 ans qu'elle a été instituée, les polémiques n'ont pas été éteintes, mais au contraire, qu'il y en a un peu plus.
Mais oui, est-ce que ça ne viendrait pas justement du fait qu'on enlève un petit peu que j'ai l'impression qu'on va un petit peu dans le sens de ce qui se passe dans les gradins avec les supporters, etc. Et que c'est une façon de remplacer justement l'arbitre, parce que j'ai l'impression qu'on lui donne pas tant de poids que ça. Moi, la fonction d'arbitre, j'ai l'impression qu'au niveau de la FIFA ou autre, elle est pas si valorisée que ça. Et que plutôt que de travailler vraiment sur la stature, sur le statut de l'arbitre, sur sa place au sein du terrain et sur je sais pas comment dire ça, mais sur le fait qu'il ait une place forte et dominante, et j'ai l'impression que ça enlève un petit peu tout ça à l'arbitre, le ouais, fait d'avoir l'interprétation vidéo.
C'est essentiel au jeu. C'est le sport qui a été inventé pour les arbitres. Il ne peut pas y avoir de sport sans arbitre.
Exactement.
Moi, je suis de ceux qui pensent. Je suis assez attaché à l'arbitrage à visage humain.
Oui.
Vous voyez, vous regardez l'humain dans le jeu, dans le football que j'aime, ouais, part d'humain est important. Alors, il y en a, on peut même soulever notre débat. Et tout le monde sera d'accord, mais le débat, c'est aussi confronter des idées. Est-ce que l'injustice ne nourrit pas l'argent du sport? C'est une vraie question.
Oui, c'est une bonne question.
Chacun aura son propre avis. Mais, et on va plus loin. Je ne sais pas si vous avez vu la FIFA, les dernières propositions d'Arsène Wenger qui veut maintenant automatiser le hors-jeu. C'est-à-dire que ce sera une machine qui dira à l'arbitre ben, il s'est hors-jeu ou pas.
Oui, mais il y a tout.
La prochaine étape, c'est la suppression de l'arbitre assistant. Puis après, c'est peut-être celle de l'arbitre, je ne sais pas.
Mais parce qu'on enlève tout crédit, moi j'ai l'impression qu'on enlève un petit peu tout crédit et qu'on déresponsabilise les arbitres parce que on écoute plus les clubs qui vont se plaindre ou les supporters qui vont se plaindre que ce qui se passe vraiment sur le terrain et qu'on enlève justement ce poids fort à l'arbitre. Je sais pas comment ça se passe au niveau de la formation de l'arbitrage. Je sais pas si on peut vous demander combien est payé un arbitre pour un match par exemple comme ce soir de Ligue des Champions parce que c'est des choses qui peuvent aussi.
Je sais pas exactement en tête, mais c'est quelques milliers d'euros. Moi, à mon époque, on gagnait 2000 euros par match arbitré.
Et un sandwich.
Par million, la moitié sont les deux. Maintenant, les arbitres sont professionnels. Les sommes sont publiques. Je crois qu'ils gagnent à peu près entre 80 000 et 100 000 euros. 120 000 euros, même pour certains, pour une saison. Donc, ce sont des salaires quand même de cadre supérieur, enfin, même de tellement de niveau.
Exactement, oui.
Oui, non, c'est normal parce que s'il y a de l'argent dans le foot et que les arbitres soient bien rétribués, eu égard à tout ce qu'on leur demande, les responsabilités qui sont les leurs, ça demande beaucoup de. Enfin, ils mettent en sommeil, évidemment, ils sont arbitres professionnels.
Mmh. Oui, ils font partie du jeu aussi.
Pleinement. Oui, ils se consacrent pleinement à l'arbitrage. Donc, ils mettent en sommeil dans l'activité professionnelle, ils ont des contrats de 1 an ou 2 ans. Après, certains, leurs contrats ne sont pas renouvelés, il faut retrouver. Un job.
Oui.
Donc ça devient aléatoire.
Non, effectivement, moi j'ai l'impression que plus on avance, plus on essaie de robotiser justement le métier d'arbitrage, mais d'un côté, je suis aussi rassuré parce que plus on essaie de le robotiser, plus il y a le côté humain qui prend le dessus. Puisque de plus en plus, plus on avance dans le temps, on constate qu'il y a une analyse humaine à faire sur une intervention de VAR, par exemple. Et de plus en plus, c'est sujet à l'interprétation des uns et des autres. Chaque arbitre est différent. Chaque consultant est différent. On a vu des arbitres, éventuellement comme M. Derrien en retraite, qui sont d'un avis différent d'un arbitre en train d'exercer. Moi, je me souviens justement de l'intervention de Monsieur Derrien sur le penalty attribué à Neymar, où là, il avait un avis totalement différent de l'arbitre qui était sur le terrain. C'était Monsieur Turpin, si je me trompe pas.
Oui, c'est ça. Oui.
Donc voilà, on se dit que. Donc il y a ce côté humain qui persiste.
Mais bien sûr, parce que pour rappeler que arbitrer, c'est interpréter.
Exactement.
Donc, quand on a une phrase, avant on interprétait en direct, mais le temps de réflexion est très 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 court. Il fallait prendre une décision tout de suite, on n'avait pas d'image. Donc, on a interprété l'action en fonction de son placement, de ce qu'on avait vu. Maintenant, ils ont un temps de réflexion, ils ont quand même un parachute, si j'ose dire. Il y a un doute sur une grosse décision, on attend, on fait vérifier par VAR. L'arbitre peut se déplacer, peut aller voir les images et prendre sa décision. Nous, on n'avait pas tout ça. Mais au final, on continue à interpréter. Et sinon, voilà. Donc, comme toute interprétation, elle est subjective.
Ah, exactement.
Comme vous disiez à juste titre, on est tous différents, on n'a pas la même philosophie, notamment sur les mains, par exemple.
Bon, tout à fait.
Les mains qui sont sifflées aujourd'hui que je sifflerais peut-être pas. Alors, peut-être que ce n'est pas les mêmes consignes qu'on avait à l'époque. J'ai quand même le sentiment que pratiquement toutes les mains sont sanctionnées à la surface, non, des défenseurs. Beaucoup plus qu'avant.
De toute façon, je pense que c'est l'essence même de l'activité, du sport, du foot qui va changer si on change un petit peu trop cet arbitrage et qu'on enlève justement ce côté humain. Donc, à voir ce que nous réserve l'avenir.
Il y a d'autres débats aussi, c'est la sonorisation des arbitres.
Comme dans le rugby.
On entend ça. Voilà, on entend ici ou là, au rugby. Bon. Alors, au rugby, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes climats sur le terrain. C'est quand même la relation entre les joueurs, les arbitres sont plus détendus.
Ah, non, je pense que c'est des clichés à chaque fois d'attribuer au rugby le fait que ce soit plus un sport de gentleman ou les relations sont plus détendues. Il y a quand même eu des noms d'oiseaux qui ont fuité. Je sais pas si vous avez, je pense que vous avez suivi la polémique où on a eu un joueur de Ligue 1 d'ailleurs de je ne sais plus quel match qui dit que s'il y avait un micro justement de la sonorisation qui était greffé auprès des arbitres, on aurait entendu peut-être un discours pas très correct de la part de l'arbitrage. Donc je pense que ça désacraliserait le football. Je pense qu'il faut.
Au moins, on fait le procès des arbitres. Certains disent qu'ils parlent mal aux joueurs. Ben, on entendra. Et on entendra aussi les joueurs.
Et ça fait partie du charme du football aussi. Si on veut dénaturer le football en instaurant la VAR, dans ce cas, pourquoi imposer la sonorisation? Parce que ça le dénature aussi. Il y a toujours ce jeu de séduction, d'intimidation entre les arbitres et les joueurs. Il y a des matchs dans le match. Je me souviens de Colina avec Zinedine Zidane, avec Gattuso, à l'époque, lors des grands matchs de Ligue des Champions. Donc, c'est peut-être intéressant de garder un peu de privé, on va dire, ces matchs dans le match.
C'est peut-être vrai aussi que l'arbitre doit imposer le respect. Donc, souvent, on peut entendre, des fois, des joueurs se plaindre aussi de la communication.
Oui, mais là, en fait, moi, j'ai l'impression qu'avec toutes ces technologies, on traite ce qu'on voit à la surface de l'iceberg et pas ce qui se passe en dessous, en fait. Et plutôt que de vouloir traiter ce qu'on aperçoit, il faudrait traiter plutôt les causes. Pourquoi on en arrive aujourd'hui à dire que pour que l'arbitre ait plus de poids, faut qu'on l'entende, faut qu'on voit tout ce qu'il dit, que la vidéo va le suppléer, etc. Je crois que c'est plutôt ça les vraies questions qu'il faudrait se poser.
Et je crois qu'il faut revenir aussi à des fondamentaux. C'est-à-dire que dans le sport, on peut perdre. Donc,
c'est ça. Exactement.
Respecter l'adversaire, respecter l'arbitre, quelle qu'elle soit. Et ça s'inculque déjà dans les écoles de football, dans les centres de formation. Pour certains, c'est trop tard. Donc, il y a un vrai travail à faire aussi sur les emparités, le respect à l'homme, aux autres.
Moi, j'ai une question, monsieur Derrien. Que pensez-vous de l'arbitrage français par rapport à l'arbitrage de nos voisins européens? L'Angleterre, l'Allemagne ou l'Italie.
Je crois que dans tous les championnats nationaux, il y a des polémiques. Il faut regarder de près. c'est une émission qu'avait exposée et partout, donc ils sont dans la polémique. Après, bon, est-ce qu'ils font plus de matchs? Il faudrait voir après sur la scène internationale si les Italiens, Allemands, Anglais ont plus de matchs dirigés par leurs arbitres par rapport au nôtre. C'est là où on peut faire la différence.
Ah, tout à fait, c'est le curseur, c'est un peu comme les équipes qui évoluent en Coupe d'Europe, et c'est ce qui permet de voir la qualité d'un championnat, leur performance en Coupe d'Europe, et de voir le nombre d'arbitres évoluer au plus haut niveau.
Il faudrait entrer dans les détails, regarder et comparer le nombre de matchs européens arbitrés par les Français et les Italiens, Anglais, Allemands, ça j'ai pas le détail.
Exactement.
Bruno Derrien, Arsène Wenger serait favorable, dites-nous ce que vous en pensez, à la présence des arbitres en conférence de presse.
Alors oui, moi je pense que, alors
ça c'est pas mal.
Ou alors pourquoi ne pas organiser un point presse le lundi par un responsable de la com de l'arbitrage, de la direction technique de l'arbitrage, qui reviendrait sur des cas qu'on fait polémique, quand vous feriez la chronique. On entend tout le monde sauf les arbitres.
Exactement.
On procède des arbitres pendant 48 heures. C'est dommage. Alors moi, je pense qu'il faut aujourd'hui communiquer, faire preuve de pédagogie, expliquer les décisions. Et voilà. Alors, ce qu'il faut éviter aussi, ce sont des actes de contrition. J'espère qu'un arbitre viendrait lui-même tous les week-ends et se plante. Excusez-moi, je me suis planté. Bon, oui, mon ancien demande des résultats. Voilà. Faire attention, trouver le juste milieu et trouver une bonne com. En tout cas, moi, je suis favorable.
Oui, c'est juste un droit de réponse. En fait, on a l'impression que tout le monde s'exprime sur les décisions de l'arbitrage et qu'on n'entend jamais les arbitres, que ce soit positif ou négatif, ou même faire un bilan du match, tout simplement. S'auto-évaluer, ben, je pense que j'ai fait un bon match.
Moi, ça m'est arrivé, moi, d'aller en conférence de presse après un match. J'ai un Strasbourg-Monaco que j'avais annulé un quart d'heure avant de la rencontre. Le terrain était gelé. Enfin, il y avait une bâche. On avait enlevé la bâche à 19h30, je ne sais plus. Et pendant une heure, le terrain, gelé. Je me suis dit, bon...
Bienvenue en Alsace.
Si je commence, on va arrêter très vite, parce que les surfaces vont être gelées. Donc j'étais allé en conférence de presse, on m'avait clamé, j'étais allé pour expliquer, et ma décision.
Et ça a été bien perçu, j'imagine que ça n'a pas fait polémique, ça n'a pas fait des lignes et des lignes dans la presse française. La bâche a été enlevée trop tôt, justification de l'arbitre, et on passe à autre chose.
Voilà. Après, chacun peut avoir son avis. Bon, moi, je l'ai le mien, j'ai été reconnu et il a été retranscrit. Après, c'est normal, les décisions sont toujours critiquables, mais les hommes publics, voilà, c'est tout.
Bruno, Derrien, que pensez-vous de l'arbitrage dans le football amateur? On voit qu'il y a de moins en moins, malheureusement, d'arbitres, il est de plus en plus difficile d'en trouver. Est-ce qu'il faudrait peut-être, je ne sais pas, des formations.
Oui. J'ai été moi-même jeune arbitre. J'ai commencé arbitrage en Bretagne, très jeune, j'avais à peine 16 ans. D'abord, pour certains, pour assouvir leur passion, ils travaillent parce que de plus en plus d'arbitres agressés, molestés, tous les ans. Malheureusement, donc il faut quand même saluer, on a besoin d'arbitres, on manque d'arbitres. Je crois qu'il y a à peine 20 000 ou 20 000 à part d'arbitres, donc il faudrait pratiquement 10 000 de plus pour couvrir toutes les compétitions. Donc c'est un vrai problème.
Quelle serait la solution, justement?
Moi j'ai un petit avis, je pense qu'au niveau des plus petites catégories, il faudrait inculquer aux jeunes, voilà, de toute classe sociale, pas forcément les quartiers populaires, que l'arbitre fait partie du jeu. Et une fois qu'on leur a inculqué ces valeurs-là, ne pas considérer l'arbitre comme un ennemi, une fois qu'on a inculqué ces valeurs-là, je pense que on améliorera les conditions de travail de l'arbitre, parce que là, j'ai l'impression que l'arbitre et le jeu, tous les deux travaillent en silo. Et donc, c'est peut-être cette éducation au sens anglais du terme qu'il faudrait mettre en place auprès des arbitres.
C'est ce que je disais tout à l'heure, il faut inculquer dans les écoles de football partout, les centres de formation,
écoles de football, même avant les centres de formation.
Expliquer les règles. Ouais. Expliquer les
très
règles.
Tôt.
Parce que beaucoup de pratiquants ne connaissent pas ou ignorent les règles d'un sport qu'ils pratiquent. Et des fois, comme ils ignorent les règles, ils ne comprennent pas. qui réagissent mal aux décisions des arbitres.
Peut-être changer le sifflet, peut-être que le sifflet c'est un peu trop obsolète, que ça fait penser aux gendarmes, peut-être mettre en place un autre outil, je sais pas, mais en tout cas...
Avec le jeu avec un mouchoir
Pourquoi pas, il y a d'autres moyens technologiques pour sublimer, sublimer l'arbitre. Pourquoi pas un petit pouet-pouet?
Changer les comportements.
Un petit klaxon, ouais. comme les tifosi.
Changer voilà. les comportements.
Tout à fait.
Mettre en place des sanctions.
Merci Bruno Derrien d'avoir donné un peu de votre temps voilà sur notre émission Time Sport sur BFM. On souhaite le meilleur pour la suite, Bruno.
Coupez le sifflet là.
Merci beaucoup Monsieur Derrien.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Merci, au revoir.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
On est de retour pour la troisième partie de Time Sport sur Beurre FM avec Diane Mourad avec moi en plateau. Bon appétit pour ceux qui finissent leur repas, Mourad, à quelques minutes de la rencontre entre le Paris Saint-Germain et Leipzig.
Time Sport. La troisième mi-temps.
Moi, je pense qu'on n'a rien d'alléchant à se mettre sous la dent dans le cadre de ce match PSG-Leipzig, puisque voilà, on connaît déjà. Enfin, pour moi, ce sera assez simple pour le Paris Saint-Germain, mais il y a quand même une chose à souligner, c'est le coup d'envoi, l'invité d'honneur, voilà, Ronaldinho.
De Ronaldinho.
C'est ce que j'allais dire. Oui, on a quand même un truc à se mettre sous la dent avec la petite guéguerre Barça-PSG.
Exactement. Et je pense que c'est justement pour mettre un peu de piment dans le cadre de cette affiche assez anodine où on sait que le Paris Saint-Germain va prendre les 3 points, qu'on a eu la merveilleuse idée de faire donner le coup d'envoi à Ronaldinho, le sourire le plus connu de l'histoire du football, la réincarnation de la beauté du football. Et je peux pas m'empêcher de faire une comparaison entre Ronaldinho et Neymar. Alors Ronaldinho, on a l'impression que c'est la passion du football à l'état pur. On le voit même lorsqu'il était incarcéré dans les prisons paraguayennes où il avait fait gagner un cochon à ses co-détenus, justement en allant au bout d'un tournoi. Et un Neymar en face, on a l'impression qu'il... Donc ça montre justement toute la passion de Ronaldinho. Et un Neymar en face, on a l'impression qu'il n'est plus passionné par ce sport, qui prend du poids, qui n'a plus de sourire, même si là il a retrouvé des couleurs au Brésil avec son équipe nationale, mais on a l'impression que c'est quelqu'un qui n'est plus passionné. Donc, ensuite, il y a le statut de Ronaldinho sur le fait que, est-ce que ou pas ce soit une légende du Paris Saint-Germain? Moi, je pense que oui, parce qu'il arrivait comme une météorite au Paris Saint-Germain et que ça a été la plateforme, le tremplin pour pouvoir lui permettre de briller à l'échelle internationale. Donc, très satisfait que Ronaldinho revienne au Paris Saint-Germain. C'était son point d'entrée en Europe. Et aussi, pour montrer à Neymar que il y a des passionnés et que peu importe son parcours, son hygiène de vie, Ronaldinho a toujours été un passionné de football, contrairement à Neymar qui annonce des retraites. Je pense que Ronaldinho ne serait jamais permis à 29 ans d'annoncer des retraites par-ci par-là. Donc voilà, je tiens à le saluer et ravi de le voir ce soir au coup d'envoi.
JN.
Moi, je ne porterai pas de jugement sur Neymar, mais cette passion du foot peut peut-être lui valoir de gros problèmes, parce qu'il est quand même ambassadeur officiel du Barça. Donc après, je ne sais pas quels sont les termes de son contrat d'ambassadeur du club. Et donc, voilà, je me dis que si le Barça critique comme ça ouvertement, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas de clause dans ce contrat, donc du coup ils sont un petit peu dégoûtés. Après
ils ont oublié une clause dans le contrat de Coutinho où ils ont perdu 5 millions. Ça m'étonne pas, de par l'incompétence depuis l'époque Bartomeu, d'oublier certaines clauses d'oublier certaines clauses dans le cadre d'un coup d'envoi d'une petite passe lors du coup d'envoi dans ce match de Ligue des Champions.
Alors après, il y a aussi...
J'ai pas entendu ce que t'as dit, Diane. On fait des chroniques, chacun de notre côté, on se met un miroir, on se met dans des box et on échange. Allons-y. Je me permets de rebondir sur ce que tu dis. On échange en tout bien, tout honneur.
Avec plaisir. Mais il y a aussi... En fait, j'avais pas terminé. Il y a aussi le côté historique. Que tu mettais en avant sur le fait que Ronaldinho a joué au PSG et qu'il a fait, la grande époque de ce club. Donc... J'ai l'impression que c'est plus une petite guéguerre entre, deux
adolescents. Qui va au-delà
J'ai l'impression que c'est une guerre d'enfants gâtés, quoi. Deux gros clubs, deux gros sponsors, deux grosses écuries avec derrière beaucoup d'argent des Émirats et du Qatar, qui se font une petite guéguerre par rapport à un joueur. Mais est-ce qu'à un moment donné, on s'est posé la question de...
Des Émirats et du Qatar, tu parles du Barça et du Paris Saint-Germain. Enfin, j'essaie de réfléchir entre... Enfin, qu'est-ce que les Émirats viennent faire justement dans cette histoire?
Non, je ne parlais pas de ça. Je disais deux guéguerres d'enfants gâtés, parce qu'ils sont quand même gâtés par par le, on va pas se cacher, le budget qu'ils peuvent avoir. Donc là, j'ai vraiment l'impression d'avoir, c'était aucun rapport avec ça, mais c'était pour expliquer le terme enfant gâté. Donc moi, j'ai plutôt l'impression d'avoir une petite guéguerre d'enfant gâté et qu'à aucun moment, peut-être plus du côté du PSG, on s'est posé la question de, après tout ce qui a traversé Ronaldinho, ce que ça lui apportait de revenir au PSG, de faire ce coup d'envoi. Qu'il ait le maillot du PSG ou qu'il ait un autre maillot. Et moi, je trouve plutôt que la symbolique est forte de montrer justement à plein de jeunes gens que, qu'importe ce qui peut nous arriver, il y a toujours cette façon de rebondir.
Bien sûr. Je vous coupe, ça a évolué du côté de la Belgique. Match terminé, victoire écrasante de City sur le score de 5-1. C'est Van Aken qui avait réduit le score pour les Belges et puis l'inévitable Mahrez. Mourad.
Pour le doublé.
Pour le doublé 5-1. La gifle.
C'est une satisfaction.
Mancunienne.
c'est effectivement. On s'y attendait aussi un petit peu. Enfin, on voit, il y a un effectif pléthorique, il y a une profondeur de banc, il y a plusieurs schémas tactiques, il y a une stabilité défensive, il y a un entraîneur de génie, il y a un grand gardien, ça part de très très bas. Tout est réuni pour passer de bons moments. C'est le retour de Kevin De Bruyne, tout le monde le regarde avec des grands yeux. Donc voilà, un peu comme le Paris Saint-Germain ce soir face à Leipzig, où je prédis aussi un score assez lourd. Aussi, parce que ça, c'est comme, même s'il y a beaucoup d'absents, il y a la rupture cardiovasculaire d'Icardi, il y a Neymar qui est absent aussi pour sa 500e blessure, mais on aura quand même Messi et Mbappé, donc...
C'est pas mal.
Voilà, on aura de quoi...
C'est quand même pas mal, quelques étoiles quand même sur la pelouse... du Parc des Princes.
Je pense que les supporters du Paris Saint-Germain peuvent regarder le match en peignoir, les pieds sur la table, avec des noix de cajou.
Tranquillement.
Pourquoi pas une coupe de champagne, une champomie, en fonction des affinités des uns et des autres, et voir un score fleuve ce soir.
Allez, on passe à la suite.
Time Sport, la victoire.
Gros duel ce soir en Ligue des Champions entre le Liverpool, Mourad, de Jürgen Klopp, et l'Atlético de Madrid de Diego Simeone. Voilà, un choc qui a des airs de, allez, peut-être quart de finale de Ligue des Champions.
Oui, c'était, c'est l'art de défendre contre le gegenpressing de Jürgen Klopp, le contre-pressing pour ceux qui ne seraient pas germanophones. Bon, je pense que vous l'aurez tous compris, mais bon, c'est deux personnalités très atypiques et marquantes de cette nouvelle génération d'entraîneurs innovantes qui apportent à chacun de leur côté de nouveaux attributs, de nouvelles façons de fonctionner, d'aborder les matchs, de nouveaux systèmes de jeu. Mais je pense que Jürgen Klopp tire, même si Diego Simeone a réalisé un gros coup la saison dernière, ou c'était il y a deux ans, notamment en Anfield, face à Jürgen Klopp, je pense que c'est Klopp qui tire son épingle du jeu, puisque il apporte sur tous les plans, sur le plan tactique, sur le plan humain, sur le plan médiatique, il apporte un souffle nouveau, que ce soit en Première Ligue ou au niveau de la Ligue des Champions, et il a cet effectif sur lequel il se base, avec cette triplette qu'on connaît tous, Mané, Salah et Firmino, et là ça commence à changer un peu. Il y a eu le départ de Gigi aussi de son côté, mais on voit qu'il y a toujours cette un peu comme Guardiola, peu importe les joueurs, il y a ce système et les joueurs sont interchangeables, mais c'est le système de jeu qui prédomine. Il y a cette l'utilisation de ses latéraux, il y a ces apports de nouveaux gardiens qui relancent de très très bas avec un très bon jeu au pied. Il y a aussi cette innovation d'aller chercher des joueurs qui seraient éventuellement dans le ventre mou, comme des Virgil van Dijk que Jürgen Klopp est parti chercher. Donc voilà, moi c'est pour le personnage en fait que j'ai beaucoup d'affection des deux, hein, Diego Simeone ou Jürgen Klopp, et ce sera une affiche très alléchante, et on ne regardera pas que le terrain, on regardera aussi le banc de touche,
ah oui, ça
le comportement des uns et des autres.
Hein.
Voilà, El Cholo versus Jürgen Klopp, je sais pas s'il a un surnom, l'homme à casquette sans lunettes maintenant depuis qu'il les a enlevés, je sais pas, mais voilà, on est très respectueux vis-à-vis de ces deux monstres du football.
Allez, on passe à la dernière partie.
Time Sport. Le duel.
Une question de jour peut-être pour Claude Puel, entraîneur de l'AS Saint-Etienne. Je le rappelle, les Stéphanois, après 10 journées de Ligue 1, c'est 0 victoire, les amis. 4 matchs nuls, 6 défaites, seulement 9 buts marqués et la plus mauvaise défense de Ligue 1 avec 23 buts encaissés. Saint-Etienne, est-ce qu'on peut déjà...
C'est compliqué d'être Stéphanois.
Ça sera compliqué pour Saint-Etienne, même s'il n'y a que 10 matchs de jouer. On sent que c'est peut-être plus profond.
Je pense que le mal est plus profond. Quand je me souviens de l'arrivée de Claude Puel, le club était déjà 19e à son arrivée. Je pense qu'il aurait dû partir une fois le club maintenu, puisque au-delà de ce problème, on va dire, de management, il y a des problèmes beaucoup plus profonds. C'est un club, certes, Je crois qu'il a gagné 10 fois le championnat, qu'il a gagné la Gambardella il n'y a pas longtemps. Donc, il y a des lueurs d'espoir. Mais c'est un club qui a deux présidents. C'est du jamais vu. Deux présidents à la vision du football totalement différent. Il y en a un qui est un fan de foot. Le mec, il vit dans les années 70, il est fan des Verts. Et un autre qui fait du foot business, et qui pour lui, le foot business, c'est des tickets resto à la Ligue, etc., etc. Donc, il y a des supporters désabusés. Ils ont pas recruté aussi, le recrutement. Donc, comment sortir un club qui est 19e lorsque Puel, justement, pour faire renaître, un club qui est 19e et tu recrutes Claude Puel, sachant que tu n'as aucune base sportive? C'est tu fais du vieux avec du vieux, tu vois ce que je veux dire. Donc pour moi c'est assez compliqué. Donc c'est très dur d'être stéphanois. Pourtant ils ont eu, il y a des lueurs d'espoir, je l'ai dit, notamment la formation des défenseurs centraux, les Fofana, les Korzuma, les Saliba récemment qui fait les beaux jours de l'Olympique de Marseille, qui est prêté par Arsenal. Donc il y a quelques bons joueurs. Il y a même Saint-Maximin aussi qui est formé là-bas. Donc je sais pas ce qui se passe en termes de. Je pense que c'est l'abandon du board en fait, et ils prennent le club en otage. Ils font les mauvais choix. Même la direction sportive est catastrophique. Donc voilà, donc le Puel, c'est pas le seul responsable, même s'il est en sursis, on sait qu'il ne reste plus beaucoup. Mais pour le remplacer par qui? Qui aujourd'hui serait éventuellement apte à faire mieux que ce que fait Claude Puel? Dans ce navire qui coule. Donc je pense que voilà, c'est très compliqué. Julien Sablé, on lui avait donné les clés du club. Ça a été compliqué aussi. Je vois personne à part Dupraz éventuellement reprendre le club, mais je le vois mal faire mieux que Claude Puel actuellement.
Ouais. Pareil pour moi, hein. C'est vrai que là c'est compliqué. Et on sent surtout que si on le maintient à Saint-Etienne, c'est uniquement pour des raisons financières. Faut pas se voiler la face. Hein. Le club n'a pas les moyens aujourd'hui. Il veut repousser au maximum le fait de devoir sortir de l'argent comme ça assez rapidement. Pour le remplacer et c'est vrai qu'on se souvient un petit peu, je crois qu'en ce moment il y a beaucoup de personnes qui rappellent un petit peu sa gestion en Angleterre dans les différents clubs où il est passé, où on lui reprochait justement un comportement très austère et une connaissance du football ou un jeu en tout cas qui n'était pas pertinent. Saint-Etienne, a cru que ça allait faire l'affaire pour cette saison et au final ils se retrouvent là dans l'embarras parce qu'ils sont obligés de garder quelqu'un avec qui ça ne fonctionne pas et ils n'ont pas l'argent pour pouvoir en changer. Donc ça me semble être une saison très 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 compliquée pour Saint-Etienne et je pense qu'il va falloir qu'ils remettent en question justement ce que tu disais, les fondements même de leur club, la manière dont sont associés les deux présidents, etc.
Et justement, est-ce qu'on aurait peut-être besoin, Mourad, d'une... Alors, on n'espère vraiment pas, pour les nombreux supporters français de l'AS Saint-Etienne, une descente peut-être en Ligue 2 pour repartir sur de bonnes bases.
Je pense que ça leur ferait le plus grand bien. Puisque le maintien en Ligue 1, je pense que maintiendrait le statu quo. Voilà. La descente en Ligue 2, et pourquoi pas le prince du Cambodge? Ça, c'est pas, je parle pas du restaurant dans le 13e, hein. Je parle d'un nouveau propriétaire éventuellement. Il était dans les petits papiers, donc voilà, un nouveau propriétaire, là c'est pour la petite boutade, mais soit de nouveaux fonds, quelqu'un qui relance la machine d'un point de vue économique.
On en parle.
Soit une descente en Ligue 2 pour repartir d'une page blanche. Voilà, c'est dans les petits papiers.
Et je pense qu'ils attendent justement cette option de rachat pour pouvoir statuer sur le cas de Claude Puel.
Exactement. Après, il y a plein de.
Depuis le départ de Christophe Galtier, quand même, on se rend compte que ça a été quand même.
C'est là qu'on voit tout le travail de Christophe Galtier. Il a réussi à être quasiment européen à chaque fois.
Ouais.
Quand on voit ceux qui l'ont succédé, justement, c'est déroute après déroute. Même aujourd'hui, la gestion de l'effectif, quand je vois le gardien de l'AS Saint-Etienne, je sais même pas s'il a le niveau PH, en fait. C'est un franco-anglais. Déjà, on connaît la réputation des gardiens anglais. Si en plus de ça, il est mauvais, il a un très mauvais jeu de pied, il est très mauvais en sortie, il a jamais su remplacer Ruffy, alors qu'il y a eu des très grands gardiens, hein, du côté de la SSE qui sont sortis. Donc, à tous les postes, il y a même le fait que les cartes ont été écartées, il y a des plafonnements salariales. On peut en discuter d'une heure de Saint-Etienne. Voilà.
Merci Mourad, merci Djenn, merci pour ce soir. Merci de nous avoir écoutés. Je rappelle une victoire de City 5 buts à 1 à Bruges.
Et le Beşiktaş
21h, PSG Leipzig, Beşiktaş, c'est terminé. Le Sporting n'a fait qu'une bouchée du Beşiktaş malgré l'ambiance électrique sur le score de 4 buts à 1. Mourad, okay. Victoire des Portugais en Turquie.
Incroyable le Sporting. Disons.
Bonne soirée, on se retrouve demain pour une nouvelle émission de Time Sport sur Beurre FM.
Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.